La folie possède un pavillon énorme.
Je m'étais réveillé à 2 heures de l'après-midi, abasourdi et catatonique. Je me rappelais exactement tout, mais je n'avais aucune garantie que ce que je me rappelais fût vrai. D'abord, j'avais pensé courir en bas de la rue pour acheter les journaux, puis je m'étais dit que dans tous les cas, quand bien même une compagnie de spahis eût pénétré dans le conservatoire sitôt après l'événement, on n'aurait pas eu assez de temps pour faire sortir la nouvelle dans les journaux du matin. Et puis, Paris, ce jour-là, avait d'autres chats à fouetter. Le portier me l'avait dit tout de go, à peine j'étais descendu prendre un café. La ville se trouvait en ébullition, beaucoup de stations de métro avaient été fermées, dans certains endroits la police chargeait, les étudiants étaient trop nombreux et décidément ils exagéraient. J'avais trouvé le numéro du docteur Wagner dans le bottin. J'avais même essayé de téléphoner, mais il était évident que le dimanche, il n'était pas à son cabinet. Quoi qu'il en fût, je devais aller vérifier au conservatoire. Je me souvenais qu'il était ouvert le dimanche après-midi aussi. Le quartier latin était agité. Des groupes vociférants passaient avec des drapeaux. Dans l'île de la Cité, j'avais vu un barrage de police. Au loin, on entendait des explosions. Ça devait être comme ça, en 68. À la hauteur de la Sainte-Chapelle, il y avait eu des remous, je sentais une odeur de gaz lacrymogène. J'avais entendu une sorte de charge. Je ne savais pas si c'était les étudiants ou les flics. Les gens couraient autour de moi. Nous étions réfugiés derrière une grille, un cordon de policiers devant nous, tandis que le chambardement avait lieu dans la rue. Quelle honte! Moi, désormais en compagnie des bourgeois sur le retour, à attendre que la révolution se calmât. Puis j'avais eu la voie libre en prenant des rues secondaires autour des anciennes halles, et j'étais tombé sur la rue Saint-Martin. Le conservatoire était ouvert avec sa cour blanche, la plaque sur la façade, le Conservatoire des arts et métiers, institué par décret de la Convention du 19 Vendémiaire en 3, dans les bâtiments de l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs, fondé au XIe siècle. Tout en ordre, avec une petite foule dominicale insensible à la kermesse estudiantine. J'étais entré, gratuit le dimanche, et chaque chose était comme l'après-midi précédent à 5 heures. Les gardiens, les visiteurs, le pendule à sa place habituelle. Je cherchais les traces de tout ce qui s'était passé. Si cela s'était passé, quelqu'un avait fait un consciencieux nettoyage. Si cela s'était passé. Je ne me souviens pas comment s'est déroulé pour moi le reste de l'après-midi. Je ne me souviens même pas ce que j'ai vu en flânant dans les rues, contraint de temps à autre à m'esquiver pour éviter le remue-ménage. J'ai appelé Milan, histoire d'essayer. Par superstition, j'ai composé le numéro de Belbo, puis celui de Lorenza, puis les éditions Garamond, qui ne pouvaient être que fermées. Et pourtant, si cette nuit est encore aujourd'hui, tout est arrivé hier. Mais depuis avant-hier jusqu'à cette nuit, il est passé une éternité. Vers le soir, je me suis aperçu que j'étais à jeun, je voulais de la tranquillité et quelques fastes. Près du Forum des Halles, je suis entré dans un restaurant qui me promettait du poisson. Et même trop. Ma table juste devant un aquarium. Un univers assez irréel pour me replonger dans un climat de soupçon absolu. Rien n'est le fait du hasard. Ce poisson a l'air d'un hésichaste asthmatique qui perd la foi et accuse Dieu d'avoir réduit le sens de l'univers. Sabaoth, Sabaoth, comment arrives-tu à être assez malin pour me faire croire que tu n'existes pas? Ainsi qu'une gangrène, la chair s'étend sur le monde. Cet autre ressemble à Minnie, il bat de ses longs cils et fait la boubouche en cœur. Minnie est la fiancée de Mickey. Je mange une salade folle avec un haddock moelleux comme des chairs d'enfant. Avec du miel et du poivre. Les policiers sont ici. Celui-là plane au milieu des coraux tel l'aéroplane de Breguet. Long battement d'ailes de lépidoptère, sans contre un qu'il a remarqué son fœtus d'homonculus abandonné sur le fond d'un nathaneur désormais percé, jeté au milieu des ordures, devant la maison de Flamel. Et puis, un poisson templier, tout loriqué de noir. Il cherche nos faux délits. Il effleure les ichastes asthmatiques qui naviguent absorbés et courroucés vers l'indicible. Je tourne la tête. Là-bas, au bout de la rue, j'aperçois l'enseigne d'un autre restaurant, chez R. Rose-Croix, Reuchlin, Rosispergius, Rakowski, Ragotsky, Zarogi. Signature, signature. Voyons, l'unique façon de mettre le diable dans l'embarras, c'est de lui faire croire que tu n'y crois pas. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, sur la course nocturne à travers Paris et sur la vision de la tour. Sortir du conservatoire, après qu'on a vu ou cru voir ce qu'on a vu et vivre la ville comme un cauchemar, c'est normal. Mais qu'est-ce que j'ai vu au conservatoire ? Il fallait absolument que je parle avec le docteur Wagner. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était la panacée, mais c'était ainsi, thérapie de la parole. Comment ai-je fait venir ce matin ? J'ai l'impression d'être entré dans un cinéma où on passait la Dame de Shanghai d'Orson Welles. Quand je suis arrivé à la scène des miroirs, je n'ai pas tenu et je suis sorti. Mais peut-être n'est-ce pas vrai, je l'ai imaginé. Ce matin, j'ai téléphoné à 9h au docteur Wagner. Le nom de Garamond a permis de franchir la barrière de la secrétaire. Le docteur a paru se souvenir de moi. Devant l'état d'urgence où je lui expliquais me trouver, il m'a dit qu'il me recevrait tout de suite, à 9h30, avant qu'arrivent les autres patients. Il m'avait semblé aimable et compréhensif. Peut-être ai-je rêvé même ma visite au docteur Wagner. La secrétaire m'a fait décliner mon identité, elle a préparé une fiche, m'a fait payer les honoraires. Par chance, j'avais déjà mon billet de retour. Un cabinet de petite dimension, sans divan. Fenêtre sur la Seine, à gauche l'ombre de la tour. Le docteur Wagner m'a accueilli avec une affabilité professionnelle. Au fond, c'est juste, je n'étais plus un de ses éditeurs, j'étais un de ses clients. D'un geste large et calme, il m'a invité à m'asseoir devant lui, de l'autre côté de son bureau, comme un employé du ministère. « Et alors ?» C'est ce qu'il a dit, et il a donné une impulsion à son fauteuil pivotant me tournant le dos. Il restait tête baissée et il me semblait qu'il tenait les mains jointes. Je n'avais plus qu'à parler. J'ai parlé, comme une cataracte. J'ai tout sorti, du début à la fin, ce que je pensais il y a 2 ans, ce que je pensais l'année dernière, ce que je pensais que Belbo avait pensé, et Diotta Levi, et surtout ce qui était arrivé la nuit de la Saint-Jean. Wagner ne m'a jamais interrompu, n'a jamais fait signe que oui ou montré de la désapprobation. Pour ce que j'en sais, il pouvait avoir sombré dans le sommeil, mais ce doit être sa technique et moi je parlais. Thérapie de la parole. Puis j'ai attendu, en fait de parole, la sienne qui me sauva. Wagner s'est levé, très lentement, sans se retourner vers moi. Il a fait le tour de son bureau et il s'est dirigé vers la fenêtre. Maintenant, il regardait par les vitres, les mains croisées dans son dos, absorbé dans ses pensées. En silence, pendant environ 10-15 minutes. Ensuite, toujours le dos tourné vers moi, d'une voix incolore, paisible, rassurante. « Monsieur, vous êtes fou. » Lui, il est resté immobile, moi de même. Après 5 autres minutes, j'ai compris qu'il ne continuerait plus. Fin de la séance. Je suis sorti sans saluer. La secrétaire m'a fait un large sourire et je me suis retrouvé dans l'avenue Élysée-Reclus. Il était 11h. J'ai rassemblé mes affaires à l'hôtel et je me suis précipité à l'aéroport, confiant dans ma bonne étoile. J'ai dû attendre 2 heures et en attendant, j'ai appelé à Milan les éditions Garamond en PVC parce que je n'avais plus un sou. Gudrun a répondu, elle paraissait plus hébétée que d'habitude. J'ai dû lui crier 3 fois qu'elle dit « si, oui, yes », qu'elle acceptait l'appel. Elle pleurait. Diotta Levi est mort samedi soir à minuit.
« Et aucun de ses amis à l'enterrement ce matin. Quelle honte, pas même M. Garamond, qui d'après ce qu'on dit est en voyage à l'étranger. » Moi, Grazia, Luciano, et un monsieur tout noir, la barbe, les favoris à frisotti et un grand chapeau. Il avait l'air d'un croque-mort. Dieu seul sait d'où il venait. Mais où étiez-vous, Cassobon ? Et où est Belbo ? Qu'est-ce qui se passe ?
J'ai murmuré des explications confuses et j'ai raccroché. On m'a appelé et je suis monté dans l'avion.